96.9, Mauricie, commentaire. Que la Mauricie se lève. Voici Maître François Vigeant.
Il va vouloir nous parler de sa Eugénie, j'imagine.
Ah, ta barouette! T'as des dons de voyance.
Je sais pas comment ça se fait. Salut François.
Ça va?
Ben oui, très bien.
C'est pas fini ça, cette histoire-là du top 50.
Je le sais que c'est pas fini.
C'est pas fini.
Là, elle est combientième, François, là?
Ce matin, 114e.
OK.
Elle joue à Monterrey demain contre Linzo, qui est une joueuse qui est complètement à sa portée.
OK.
Alors, si elle se remet à accumuler des points, hier, c'est plate qu'elle ait perdu samedi, c'est-à-dire...
Oui.
C'est plate qu'elle ait perdu en finale parce que ça donnait beaucoup de points.
Oui, j'imagine.
Elle se serait ramassée à peu près 96, 97.
Toi, tu y crois encore qu'elle peut atteindre le top 50?
Moi, je pense que j'y crois. Ouais. Je vais vous dire, il y a des choses qu'elle a améliorées. Premièrement, revenons en arrière. Là. Elle a pris René Stubbs comme entraîneur.
Oui, tu me disais ça. Ouais.
Bon, ça, c'est... Au début, je trouvais que c'était un drôle de choix. René Stubbs, là, moi et mon père, c'était une de nos joueuses préférées. Parce que Stubbs, c'était une joueuse d'offensive.
Mm-hmm.
Service volé, on n'est pas capable de frapper une balle au coup droit ou au revers, pas grave, en avant tout, on attaque.
OK.
OK. Alors, il y avait ça d'intéressant avec elle. Et peut-être que, parce que avant elle, elle a eu Harold Solomon comme coach, qui était un joueur qui jouait uniquement du fond du terrain.
Mm-hmm.
Alors, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un qui pouvait lui apporter quelque chose au service par la volée, parce que le problème de Jenny Bouchard, c'est parce qu'elle n'a pas de deuxième balle de service, puis elle n'est pas capable de jouer à voler. Bon, alors, peut-être que là, elle a trouvé quelqu'un qui peut améliorer cette partie de son jeu-là.
Ben, ouais.
Qui peut améliorer le côté offensif de son jeu.
Tant mieux.
Au fond du court, il n'y a jamais eu vraiment de problème. Là.
Non, c'est ça. Non, t'as
c'est
raison.
Pas là que c'est pas là que ça se passe.
Okay.
Bon, alors là, samedi, elle a joué contre une joueuse qui manquait jamais une balle, une Espagnole absolument... là. Elle pouvait frapper à balle sans manquer que tu avais le temps d'aller coucher. elle a montré quelque chose, là. Je vous le dis.
OK, parfait.
Non, l'affaire. Ça fait que là, elle a un beau tableau en première ronde au tournoi de Monterrey. Après ça, on verra.
OK.
Je veux dire, c'est pas terminé. Pendant qu'on est en sport féminin, là, je voudrais te parler d'une autre chose.
Ouais.
Je voudrais te parler de Marie-Ève Dicker.
Ouais.
Bon, là, j'ai pas eu le temps de t'en parler. Marie-Ève Dicker, il y a une dizaine de jours, a eu un combat de championnat du monde en boxe professionnelle. Là, contre une boxeuse, la meilleure du monde, de loin, Clarissa Shields.
Dans une classe à part.
Complètement, elle est seule, Clarissa Shields. Bon. Elle s'est battue pendant 10 rondes, et honnêtement, là, elle s'est battue pendant 10 rondes. Oui, elle a perdu les 10 rondes, mais elle a toujours été capable de se défendre. Elle a toujours été active offensivement. Elle a donné un combat quand même extrêmement compétitif contre une boxeuse qui était dans une autre catégorie. Ouais.
Mais c'est plus oui, François, c'est vrai, mais elle s'est plus défendue parce qu'en fait, ses coups ne portaient pas. Elle n'était pas capable de l'atteindre sérieusement. Elle est trop rapide, l'autre.
L'autre est trop vite.
C'est une machine.
Non, trop vite.
Je suis d'accord avec toi.
Puis, bon.
Mais c'est rien contre Marie-Ève, là.
Non. Mais moi, je vais vous dire quelque chose.
Oui.
Ça a élevé l'opinion que j'avais d'elle, même si elle a perdu, puis même si c'était un combat difficile. Deuxièmement, puis ce que je vais dire est vrai, c'est vrai dans la vie, puis c'est surtout vrai à la boxe aussi. Vous savez, il y a des boxeurs qui vont jamais courir leur chance. Hein? Ils vont passer quasiment toute leur carrière à se battre contre des adversaires qui savent qu'ils vont gagner assez facilement, etc. Puis ils vont monter. Puis à un moment donné dans la vie, sais-tu quoi? Faut que tu t'asseyes. Faut que tu ailles voir, faut que tu prennes une chance.
Absolument.
Puis elle est rendue à 34, je pense, Marie-Ève Dicker. Ouais. Alors, à un moment donné, là, elle s'est dit, ben, sais-tu quoi?
C'est là.
C'est là que ça se passe.
C'est ça.
OK? Ouais. Puis moi, j'ai du respect pour ça.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Marc Messier a fait un film il y a bien des années qui n'a eu aucun succès financier, mais qui est un film extraordinaire, si jamais vous pouvez le retrouver. Ça s'appelle Le Sphinx.
Ah oui.
Et sur le poster du film Le Sphinx, c'était marqué « Dans la vie, t'as le choix entre tondre ton gazon ou partir en safari.
Okay.
Et ça, ça m'a toujours frappé. Okay. Et moi, j'ai trouvé ça courageux de sa part. J'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé que j'ai au moins elle a pourra dire. Moi, je me suis essayé.
Exact, c'est ça. Oh,
oui. Je me suis battu contre la meilleure au monde.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, François, faut que tu te battes contre des bons ou des bonnes ou contre les meilleurs pour voir t'es rendu où là. Est-ce que c'est atteignable? Moi, je suis rendu là. Est-ce que je peux? Tu comprends?
Exactement.
Moi, j'ai du respect pour ça.
Et elle a gardé une valeur commerciale parce que là, je voudrais parler maintenant des entrevues que tu as faites, de l'entrevue que tu as faite avec la dame du restaurant Jeannot, là, plus tôt, sur la question du comportement dans les restaurants.
Oui.
Puis aussi, tu as parlé de ceux qui pouvaient un petit peu abuser du système en se faisant passer pour des aidants. Bon. Oui. Là, Catherine, ce matin, là, il va falloir que tu baisses la barre de tes attentes sur l'être humain.
Okay, ils sont trop élevés?
Oui.
OK, d'accord. Je t'écoute.
OK, là. En temps normal, il va toujours avoir une catégorie de la population, qui sont des gens frustrés, des gens plus ou moins doués de jugement. Okay? Ça, là, il y en a déjà une certaine catégorie.
Ouais.
Mais quand tu es en temps de pandémie, là, premièrement, active l'idiotie de bien de ces gens-là, qui, en temps normal, seraient des gens qui, le temps d'un souper, là, pourraient se comporter à peu près correctement en société. Okay? Mais quand tu es en pandémie, oublie pas une chose, là, tu viens de toucher une switch. Là, okay? Tu viens de toucher un bouton qui fait que les gens, les crayons les moins aiguisés de la boîte, comme disait la porte-parole de Québec solidaire, eux autres, ça va être difficile pour eux parce que c'est déjà des gens qui aimaient ça, agir de façon asociale. Parce qu'il faut que tu penses à une autre affaire.
Vas-y.
Il y a une catégorie de gens qui aiment, la seule façon qu'ils ont d'attirer l'attention, là, c'est d'agir comme des épais. OK? C'est la seule. Ils n'ont pas d'autre façon d'attirer l'attention. Alors, c'est sûr qu'en pandémie, c'est là, ceux-là, tu les agites.
Oui, je comprends.
Et ils tombent dans l'autre catégorie par l'effet de la pandémie. Alors, tu prends quelqu'un qui déjà va mal se comporter ou va avoir des tendances, tu le laisses chez eux pour éroter pendant 10 mois, ben là, tu le sors. Il est pas mieux.
Non, c'est
il a juste pu empirer.
Oui.
Okay,
je comprends ton point, mais c'est parce que je trouve ça triste pour, t'sais, pour les gens qui subissent ça. C'est ça, tu sais, comme la restauratrice qui se débattent, puis qui essaie de faire bien les choses, puis qui se font imposer toutes sortes de mesures, puis qui... Tu comprends? Je trouve ça plate pour ce monde-là.
Ouais, mais moi, le conseil que je donnerais, c'est courage, puis rester ouvert, puis penser que sur 10 clients que vous allez avoir, il y en a un déjà qui ne sait pas vivre en société, ben là, c'est le double, parce qu'on est en pandémie.
C'est pas fou, ton affaire.
Bon,
okay.
Regarde, tu te promènes sur la route... Toi, tu vois-tu ça? Je suis-tu tout seul, moi, à voir ça? Les gens qui se font couper sur la route.
Ouais.
Les gens qui se promènent en zigzag en automobile.
Ouais.
Est-ce-tu dans ma tête que les gens se comportent pas comme d'habitude?
Non, c'est pas dans ta tête.
Bon, OK. Alors, la dame qui a le restaurant, je dirais, écoutez, madame, pensez pas que c'est mieux dans les autres domaines. OK? La seule affaire que je peux dire pour l'encourager, c'est de dire, regardez, c'est pas pire chez vous, là.
Non, non, je comprends ton point.
OK, alors, et c'est pas relatif à votre clientèle à vous, puis c'est pas parce que votre pâté chinois est pas bon, OK? C'est parce que il y a une espèce d'intensité collective qui se passe dans la tête des gens. C'est pas juste dans un restaurant. C'est partout. Et demain, j'ai mon sujet. Demain, je vais être... Oh, yes!
Okay.
Parce que tu l'as effleuré tantôt. Quand tu as parlé des animaux domestiques, là, c'est la folie.
Oui, OK.
C'est la folie des animaux domestiques.
Oui.
OK? Si vous n'avez pas d'emploi, vous voulez partir un commerce, partez n'importe quoi qui a quelque chose à voir avec les animaux domestiques.
T'es-tu rendu qu'un animal?
Non, quand même pas là, mais on ne sait jamais.
Écoute, OK, parfait.
Ben, écoute, j'ai acheté une peinture pour aller casser des animaux. Tu vois, même moi, je suis...
Ah, attends un peu, wow.
Je suis atteint.
T'as acheté quoi?
J'ai acheté une peinture qui reproduit des animaux. Hey, tu vois, même moi, je t'atteins. Salut.
Salut. À demain, j'ai des ordres. Bye, François Michel, du lundi au jeudi, 17h35. Une peinture? Dans le fond, une peinture qui a des animaux dessus. C'est ça que je comprends? OK. OK. Ben écoute, c'est ça. Il n'y a rien de trop beau.